chemin de vie.
Chers amis, nous voici ensemble pour notre rendez-vous quotidien à l'écoute de Chemin de vie. Une étude systématique de la Bible que vous retrouvez chaque jour du lundi au vendredi à cette même heure. Au micro Jean ainsi que
Heidi et Daniel à la technique. Aujourd'hui, notre rubrique va nous conduire à parler d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Tous ceux qui se tournent vers ce nom, et bien sûr ce qu'il représente, ne seront jamais déçus. De quoi ou de qui s'agit-il?
Nous le saurons juste après avoir écouté Lionel Salveria interpréter ce titre « Ils sont nombreux ».
Pour certains, comme un fleuve tranquille, où leur semble bien simple, rien n'est difficile. Aucun souci ne vient entraver leur chemin, mais qu'en sera-t-il pour eux demain? Ils sont nombreux, ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux. Ils se disent même sans reprocher, sans peur, mais qu'en est-il vraiment de leur cœur? Certains des hommes d'aujourd'hui nous obligent à penser au vrai sens de la vie. D'où viens-tu? Où vas-tu? En quel homme crois-tu? Et qu'en sera-t-il pour toi demain? Ils sont nombreux, ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux. Ils se disent même sans reprocher, sans peur, mais qu'en est-il vraiment de leur cœur? Aujourd'hui à réfléchir ainsi, car Dieu veut que ta vie lui appartienne enfin. Réfléchis donc, que sera demain? Ils sont nombreux, ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux. Ils se disent même sans reprocher, sans peur, mais qu'en est-il vraiment de leur cœur? Sur le ton lendemain, fais-tu partie de ceux qui oublient Dieu, qui marchent seuls en fermant les yeux, devant le Fils de Dieu donnant sa vie pour eux? Ouvre tes yeux pour Jésus, fais-le.
Comment échapperais-tu, moi qui néglige un si grand salut qu'on eût su du Fils élu, laissant de gloire? Pour toi il mourut, fouetté, insulté, il a résisté 3 jours dans la mort, ressuscité, monté au ciel, dans la félicité.
Il est la solution, la seule solution dans le malheur, crie à lui, fleur, lamente-toi, il te bénit. Tu as essayé les voyants, les médiums, l'alcool, la cigarette, ton opium, essaye avec Jésus, change la donne.
Depuis que le monde est, il t'a connu, pour toi il est ici de secours, il l'a pourvu. Face aux difficultés qui traversent ton entendement, lorsque la tempête arrive en grandissant, à chaque cri de ton cœur il entend.
Soupir inexprimable, il les ressent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de sauver les hommes si iniques. À ses yeux, chaque âme est si unique.
Personne n'est juste, tous sont péchés, de la gloire de Dieu sont éloignés. À ses sans compromis, il est déchaîné. Les plaisirs éphémères ne sont que vanité.
Ton âme s'insurge face à la platitude de ta vie. Elle a besoin de quitter cette errance facile. Le vide sonne et nuages sur ta vie trône.
As-tu déjà connu la liberté?
Marcher libre sans aucune culpabilité.
Aujourd'hui, viens chercher la liberté.
Sur la croix, Christ te l'a donné.
Mais dis-moi.
Fais-tu partie de ceux qui oublient Dieu, qui marchent seul en fermant les yeux?
Je suis dans la
vie pour toi, dans la vie pour moi. Ouvre tes yeux pour Jésus,
fais-le. Ouvre les yeux.
En français, nous avons l'expression pauvre comme Job. Mais peu de gens connaissent l'origine de cette maxime. C'est le nom d'un des livres poétiques de l'Ancien Testament. Mis à part le fait que ce personnage a eu des problèmes par-dessus la tête, c'était un sage dans tous les sens du mot. Il vivait environ 2000 ans avant Jésus-Christ et c'est lui qui a posé la question fondamentale qui résonne dans tout l'univers. Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? L'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Fin de citation. Justement, Paul répond à cette interrogation lorsqu'il dit « Quiconque met en Jésus-Christ sa confiance ne sera jamais déçu ». L'apôtre tire ses paroles d'une prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait la venue du Christ en ces termes. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir pour sa vie. » Fin de citation. Je continue à lire dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. « Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés » versets 12 et 13. Paul précise sa pensée avec cette dernière phrase « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés ». L'apôtre Pierre l'a également cité lors de la Pentecôte. C'est à ce moment que plusieurs milliers de Juifs acceptèrent Jésus-Christ comme leur Messie et Sauveur. Tout comme il n'y a pas de différence entre Juifs et païens en matière de jugement et de péché, il n'y en a pas non plus en ce qui concerne le salut par la foi en Jésus. Lorsqu'il était sur terre, le Christ a dit à ses disciples « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Fin de citation. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Il n'y a toujours qu'une seule porte pour entrer au ciel et elle porte le nom de Jésus-Christ. Je continue. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Versets 14 et 15. Paul aborde les questions soulevées par l'offre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est par un acte de foi que quelqu'un invoque le Christ. Encore faut-il que l'occasion lui soit donnée. Paul suit un raisonnement logique pour conclure qu'il est indispensable que des messagers soient envoyés pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus. La citation de l'Ancien Testament « Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles » est tirée d'un message adressé aux Juifs exilés de Babylone qui leur annonçait leur prochaine libération de la captivité suivie de la prophétie d'une autre délivrance grâce à l'œuvre du serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire le Christ. Tel est bien l'Évangile, la bonne nouvelle que les Israélites ont refusé de croire. Je continue le texte. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Verset 16. Ce manquement des Juifs à répondre à la bonne nouvelle était non seulement vrai à l'époque de Paul, mais aussi au temps du ministère de Jésus. Je cite un passage. « Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu ?» Fin de citation. L'Évangile a d'abord été offert aux Juifs qui l'ont rejeté. En second lieu, il s'adresse aussi aux païens qui, pour l'immense majorité, le rejetteront eux aussi. Je continue le texte. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message c'est celui qui provient de la parole du Christ. Verset 17. Cette vérité est fondamentale. Beaucoup disent j'aimerais avoir la foi, comme si c'était quelque chose qui vous tombait dessus du haut d'un arbre. Ce n'est pas en étudiant la philosophie, la psychologie ou n'importe quelle idéologie que j'aurai foi en Dieu, mais en lisant et méditant les textes sacrés. Je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, me direz-vous. Votre âme ne vaut-elle donc pas que vous lui consacriez quelques instants? Sachez qu'un jour, il vous faudra bien prendre le temps de mourir, après quoi vient le jugement, dit un texte du Nouveau Testament. Je continue. Maintenant donc, je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Mais si, n'est-il pas écrit, leur voix a retenti par toute la terre, leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Verset 18. Dans cette citation d'un psaume de l'Ancien Testament, il est question à la fois du témoignage rendu par le cosmos à la gloire de Dieu et de la révélation spéciale que l'Éternel a fait de lui-même au peuple d'Israël. Cette voix se fait maintenant entendre grâce au prédicateur de l'Évangile. En conséquence, l'incrédulité des Juifs, comme des païens d'ailleurs, est inexcusable. Elle n'est pas la conséquence de leur ignorance, mais de leur refus délibéré du message. Je continue le texte. Je demande alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse a été le premier à le leur dire. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple, je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. Verset 19. Les Israélites considéraient les païens comme spirituellement aveugles. Mais Moïse leur avait déjà fait savoir qu'un jour l'Éternel leur préférerait ceux-là même qu'ils méprisaient. Ce thème d'un peuple de non-juifs qui prendra la place de la nation élue revient plusieurs fois sous la plume de Paul. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Ésaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. » Mais parlant d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Verset 20-21. Paul cite une partie d'un texte prophétique que je lis en entier. « Je me suis laissé invoquer par des personnes qui ne demandaient rien, et je me suis laissé trouver par des personnes qui ne s'appelaient pas de mon nom. J'ai dit « je suis là aux gens d'une nation qui ne m'invoquaient pas. » Oui, j'ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait une voie mauvaise au gré de ses pensées, un peuple qui, sans cesse, provoque ma colère ouvertement. » Fin de citation. Garder les mains tendues est une position particulièrement pénible. Si vous essayez, vous le constaterez par vous-même. Cette façon de parler est une manière pour l'Éternel d'exprimer l'amour insondable qu'il voue à Israël. Mais le peuple élu était rebelle de cœur, comme l'a bien dit Étienne, le premier martyr de l'Église, juste avant qu'il ne soit exécuté par les Juifs. Je le cite. « Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, vous ressemblez bien à vos ancêtres. » Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. » Fin de citation. Le prophète Ésaïe, que Paul a cité, prédisait le salut des païens grâce à la prédication de l'Évangile, par l'apôtre Paul, entre autres, mais aussi par les premiers chrétiens. Dieu a sanctionné la désobéissance, la rébellion et l'incrédulité continuelle des Juifs en se détournant d'eux et en se tournant vers les païens. Mais en même temps, il a imploré son peuple jour et nuit à revenir à lui. Ceci dit, les païens ne valent pas mieux que les Juifs. Le monde entier est contredisant et rebelle. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, continue à montrer sa patience, reportant sans cesse son jugement, ne voulant pas qu'un seul être humain périsse. Moi, quand je constate l'injustice qui règne sur terre, l'exploitation de l'homme par l'homme dans tous les pays, sans exception, si j'avais la charge de gouverner la terre, je commencerais avec un très gros bulldozer. Mais l'Éternel, lui, est un Dieu de grâce. Il tend les bras vers un monde rebelle et moqueur, et il attend que certains veuillent bien se repentir. Nous voici arrivés au chapitre 11, dans lequel l'apôtre Paul dresse l'avenir du peuple d'Israël dans le plan de Dieu. En tant que nation, elle a rejeté son Messie et le message de l'Évangile. En conséquence, le Seigneur les a mis de côté. Deux questions se posent alors. L'Éternel a-t-il rejeté le peuple élu de façon définitive ou temporaire? Et deuxièmement, qu'advient-il de toutes les promesses contenues dans l'Ancien Testament et qui concernent exclusivement les Israélites? Sont-elles réduites à néant à cause de leur rejet du Christ? Je commence à lire. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même Israélite descendant d'Abraham de la tribu de Benjamin? Verset 1. L'interrogation de Paul découle des propos précédents sur la situation du peuple choisi mis de côté par Dieu. Dans sa question-réponse, l'apôtre fait allusion à deux citations de l'Ancien Testament que je lis. « Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. » Fin de citation. Il existe d'autres passages de l'Ancien Testament qui certifient que jamais, non grand jamais, ne sera abolie la relation dans laquelle l'Éternel est entré avec Israël. Je lis un exemple. « Voici ce que déclare l'Éternel qui place le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. » Fin de citation. De plus, lui, Paul, un Israélite jusqu'au bout des ongles, est la preuve vivante que tout le peuple n'a pas été rejeté en bloc. Tel est aussi le cas des autres apôtres et des premiers croyants qui étaient tous juifs. Quant aux autres Israélites, dira Paul plus loin, ils ont été frappés d'aveuglement. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'était choisi du milieu de la nation un petit peuple qui l'honorait. Il agit de même aujourd'hui envers les Juifs et envers le reste du monde. Je continue le texte. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi, je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Versets 2 et 3. Paul ancre son affirmation comme quoi Israël n'a pas été rejeté définitivement dans le fait que c'est Dieu qui l'a choisi comme peuple de l'Alliance. Puis il prouve ses dires avec un exemple tiré de la vie d'Élie. Le prophète était au creux de la vague, profondément déprimé, alors qu'il fuyait pour sa vie. Il se considérait alors comme le seul croyant qui restait en Israël. Mais l'Éternel lui a répondu, « Attends une minute. « Ressaisis-toi, tu fais grandement erreur. » Je continue le texte. « Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le dieu Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. » Versets 4 à 6. Alors qu'une idolâtrie rampante et grotesque régnait en Israël, il s'y trouvait quand même un petit reste de 7000 hommes et au moins autant de femmes qui n'avaient pas flanché, qui étaient demeurés fidèles à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, il existera toujours un petit peuple que Dieu dans sa grâce choisira pour lui et qui lui sera donc dévoué. Paul lui-même n'était qu'un de ceux du peuple d'Israël qui avait été élu à la foi. C'est ainsi que s'exerce la souveraineté divine qui ne dépend pas des actions des hommes. C'est ainsi aussi que les principes de la grâce divine et des œuvres humaines fonctionnent dans des directions diamétralement opposées. Je continue. Que s'est-il donc passé? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre, conformément à ce qui est écrit. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité, et il en est ainsi jusqu'à ce jour. Versets 7 à 8. La situation est ironique. Les Juifs cherchaient jalousement à être acceptés par Dieu sur la base des œuvres et de la justice de la loi. Cependant, à cause du choix souverain de la grâce de Dieu, seuls les élus faisaient partie de son peuple. Quant aux autres Israélites, lorsque Jésus-Christ s'est présenté à eux comme leur Messie, ils ont délibérément décidé de le faire crucifier par les Romains. En conséquence, Dieu les a jugés en endurcissant leur cœur. Ici encore, on constate que la souveraineté divine et la responsabilité humaine fonctionnent en parallèle, mais sur des plans différents. L'un est aux cieux et l'autre sur terre. Je continue. De même, David déclare que leur banquet devienne pour eux un piège, un filet, une cause de chute, et qu'ils y trouvent leur châtiment. Que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils perdent la vue, fais-leur sans cesse courber le dos. Versets 9 à 10. Lors de la célébration des fêtes obligatoires selon la loi, les Israélites organisaient de somptueux banquets qui reflétaient les bienfaits divins sur leur pays et sur eux en tant que peuple élu. La bonté de l'Éternel à leur égard et le symbolisme de ces fêtes auraient dû les encourager à demeurer fidèles à leur Dieu et les conduire à accepter Jésus-Christ lorsqu'il s'est présenté à eux. C'est le contraire qui s'est passé. Ils ont été rebelles, se sont enorgueillis de leur prospérité, ont cru mériter leur bénédiction et se sont confiés dans leurs richesses plutôt qu'en Dieu. La citation de David provient d'un psaume qui prédit la venue et le rejet du Messie ainsi que l'annonce du châtiment divin qui va suivre. Parce que les Juifs du premier siècle ont refusé de recevoir la vérité de Dieu en la personne du Christ, ils vont en pâtir sévèrement. Toutes leurs occasions de se réjouir vont se transformer en objet de tristesse et se retourner contre eux. Ils n'auront plus la possibilité de faire marche arrière, de se repentir, de reconnaître leur Messie en Jésus-Christ et d'être pardonnés. Au contraire, leur dos sera constamment courbé sous le poids du jugement. Cette prophétie de David est réitérée par Paul, a commencé à s'accomplir en l'an 70 de notre ère. Alors, les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, ont fait de la purification ethnique avant l'heure et ont vendu comme esclaves tous les rescapés. Les autres sont partis en exil. Ce fut une fois de plus la fin de l'indépendance d'Israël. Ensuite, il y a eu l'antisémitisme du Moyen Âge, le fascisme, les pogroms et le reste. L'existence d'Israël aujourd'hui est uniquement due à la grâce de Dieu qui a promis que jamais, au grand jamais, il n'abandonnera son peuple complètement. Mais il n'empêche que le châtiment a été sévère et continue au moment où je vous parle, alors que, comme je l'ai déjà dit, les Juifs sont toujours et encore entourés d'ennemis qui ont juré leur anéantissement. Les plans de paix se succèdent pour donner du travail aux diplomates, aider certains dirigeants du monde pour occuper les journalistes et amuser la galerie. Mais tous ces efforts sont en vain, pour ne pas dire que c'est une vaste supercherie. Selon le prophète Ésaïe, l'Éternel a dit, il n'y aura pas de paix pour les méchants.
J'ai choisi de te donner ma vie, pour toujours de me laisser guider, ainsi te confier tous mes soucis et te laisser tout diriger. Bon, sans toi, je ne serai rien. Aide-moi à ne pas lâcher ta main. Jésus, tu es la solution, tu réponds à mes questions. Nous t'avons choisi pour qu'il soit notre lumière, éclaire nos chemins.
Maëva et Iri viennent de nous interpréter ce chant intitulé « Nous t'avons choisi ». Je vois que le temps passe inexorablement et qu'il est grand temps de prendre congé de vous, amis auditeurs. Si vous souhaitez nous contacter soit pour obtenir le texte de ce jour, soit simplement pour nous poser des questions, voici notre numéro de téléphone. C'est le 0820 200 628. C'est un numéro indigo. 0820 200 628.
Notre site internet est également à votre disposition et je vous en rappelle l'adresse chemindevie.info, chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info. Au revoir et à demain.
À demain.